espoir. Dans une lettre ouverte, un groupe de 70 experts congolais et internationaux remet en cause les lois portant sur la traçabilité des minerais de l'Est et de la RDC. Raison avancée, la lutte contre les minerais de sang n'a pas encore apporté des changements significatifs sur le terrain. Quelle analyse faire de cette déclaration et que faut-il pour lutter efficacement contre le minerai de sang dans l'est de la RDC? Nous en parlons avec Mabuli Ayenga, il est coordonnateur du programme d'appui au secteur des mines, Promine en sigle. C'est une structure qui dépend du ministère des Mines et du gouvernement central. Bonsoir Mabuli Ayenga.
Bonsoir.
John Kanoni, il est vice-président de la Chambre des Mines et de la Fédération des entreprises du Congo FEC en sigle. Il est un des experts qui ont signé la lettre ouverte. Bonsoir John Kanoni.
Bonsoir.
Et Willy Kalenga, il est analyste et directeur général de Géopolis Magazine. C'est un magazine spécialisé dans les ressources naturelles. Bonsoir Willy Kalenga.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le rôle des minerais dans les conflits de la RDC au centre des débats. Un groupe d'experts congolais et internationaux remettent en cause les lois portant la traçabilité des minerais de l'est de la RDC et exigent une concertation avec tous les acteurs locaux. C'est ce qui ressort de la lettre ouverte que ces experts ont publiée ce mercredi. Explication avec Emmanuel Elamegi.
Les signataires de cette lettre ouverte émettent des critiques sur toutes les lois tendant à réglementer l'exploitation de minerais dits de sang. C'est notamment la législation américaine connue sous le nom de l'Acte Dodd-Frank Act, une loi qui exige des entreprises qui s'approvisionnent en minerais à l'est de la RDC de détailler leur chaîne d'approvisionnement. Cette initiative vise les minerais comme la cassitérite, le tantal, le tungstène et l'or, extraits de façon artisanale et qui auraient aidé les protagonistes des conflits à financer leurs interventions en RDC depuis 20 ans. Pour les 70 experts, les groupes armés de l'est de la RDC ne dépendent pas des minerais pour survivre, mais ces minerais constituent une source parmi tant d'autres. Pour eux, le mouvement contre les minerais de sang n'a pas encore mené à des changements significatifs sur terrain. La majorité des sites miniers restent dans l'ombre, les nombreux mineurs ont perdu leur travail et l'économie locale a durement souffert. Parmi les mesures préconisées par les signataires, la meilleure concertation avec tous les acteurs et une prise en compte de réalité locale du secteur minier en RDC. Que les lois adoptées par le gouvernement soient mieux adaptées aux réalités locales, car sans cela, conclut la lettre, ces initiatives risquent d'alimenter les conflits auxquels elles souhaitent mettre fin.
John Kanyoni, je rappelle que vous êtes vice-président de la Chambre des Mines et de la Fédération des entreprises du Congo FEC en sigle. Vous êtes l'un des experts qui ont signé cette lettre ouverte. Aujourd'hui, 4 ans après que les initiatives ont été prises à travers des textes et des lois pour contrôler plutôt les minerais dits des sangs, vous publiez une lettre dans laquelle vous remettez en cause l'efficacité de ces initiatives. Qu'est-ce que vous reprochez à toutes ces démarches?
Bon, j'aimerais d'abord préciser, merci beaucoup, que ce que nous reprochons, nous ne remettons pas en cause toutes les initiatives. L'initiative particulièrement que nous remettons en cause, c'est la section 15.0D de l'acte Dodd-Frank Act qui nous a poussé vers un embargo des faits qui n'a pas donné de résultats positifs. Je voudrais d'abord préciser que cette lettre a été signée par 70 personnes. Parmi ces 70, ceux qui relèvent du secteur minier que je dirige, il y en a que pratiquement 3. C'est pour vous montrer que les recherches ont été très approfondies. Vous verrez qu'il y a des professeurs d'université, des chercheurs et autres. Alors, j'aimerais clarifier que ce que nous remettons en cause, c'est la loi américaine dite Dodd-Frank. Mais on ne remet pas en cause les autres initiatives.
Voilà. Et qu'est-ce que vous reprochez à cette loi?
Bon, cette loi a comme impact négatif qu'elle nous a poussé vers un embargo des faits. Je vais d'abord peut-être vous dire un peu quelles sont les initiatives qui avaient été mises en cause, prises dès le départ. Je prendrai par exemple l'initiative de l'OCDE, qui était l'initiative la plus inclusive, où nous avions notre gouvernement et d'autres gouvernements de la région, où nous avions la société civile nationale et internationale, et où nous avions la Fédération d'entreprises du Congo à travers la Chambre des Mines, qui représentait l'industrie locale. Et je peux vous dire que cette initiative était la meilleure parce qu'elle était inclusive, elle permettait de trouver une solution qui soit durable et qui soit évaluée de commun accord avec toutes les parties prenantes, l'industrie, la société civile et les gouvernements respectifs.
Alors, dans cette lettre, la lettre que vous avez publiée, vous dites que les minerais aident à perpétuer les conflits, mais ils n'en sont pas la cause. Avez-vous identifié les causes principales des conflits armés dans l'est de la RDC?
Non, nous avons toujours dit que l'implication des groupes armés dans l'exploitation artisanale est une des conséquences d'un vacuum de notre gouvernement au niveau de la partie orientale de notre pays. Mais je dois reconnaître une chose. Plus que la situation s'est améliorée, nous avons sensiblement évolué. J'aimerais d'abord clarifier une chose dès le départ. Je dois avouer que notre gouvernement nous a beaucoup soutenus à travers toutes ces initiatives. Mais l'initiative qui a créé un embargo de fer, c'est la loi américaine. Elle a poussé des milliers, si pas des millions, de créateurs artisanaux dans une situation d'insécurité du fait qu'ils n'avaient plus d'emploi. Elle a poussé notre propre gouvernement à ne plus avoir les recettes émanant de notre secteur. Plus grave, elle a poussé à ce que les secteurs qui étaient en train d'être assainis de manière progressive soient rentrés suffisamment en arrière et se soient retrouvés dans une situation d'informalité et de fraude.
Mais c'est
une situation que nous combattons au niveau de l'Afrique avec l'appui de notre gouvernement. C'est très clair que les effets de Dodd-Frank ont eu plus un effet négatif. Nous ne sommes pas d'ailleurs les seuls à le relever aujourd'hui. Pour votre information, la Chambre des commerces des États-Unis, la semaine passée, a reconnu que cette initiative-là n'était pas la voie appropriée.
Oui, alors, vous avez dit que les minerais ne sont pas les causes des conflits dans l'Est. Quelles sont ces causes, si vous les avez identifiées?
Vous le savez tous très bien que nous avons d'autres problèmes qui sont réels au niveau de l'Est du Congo. On a des problèmes de démographie, on a des problèmes de lutte politique, on a des problèmes de terre. Voilà les vrais problèmes. Et malheureusement, les groupes armés, c'est un constat qui est amer, il faut le reconnaître. À l'est de la RDC, tous les groupes armés que nous avons ici sont liés d'une manière ou d'une autre à des ethnies bien spécifiques. C'est ça le problème. C'est là qu'il faut trouver une solution. Et est-ce que les minerais ont contribué à pérenniser, dans certains cas, une situation de conflit? Oui. On ne doit pas le reconnaître. Mais est-ce que ce rôle-là a été celui qui a causé pratiquement tout le problème, tel que le lobbying a été fait par des ONG américaines et anglaises auprès du Congrès américain, auprès du Sénat pour que cette loi passe? Non, je ne pense pas. Les rapports des Nations Unies montrent très bien que l'implication des groupes armés ne contribue qu'à 8% au conflit. Et ça ne vient pas de nous.
Alors, cela voudrait dire que ces minerais peuvent ou ne pas être là. Il y aura toujours des conflits, étant donné que les causes sont là.
Tout à fait, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Nous pensons qu'il faut reconnaître une chose. Notre gouvernement est en train de faire des efforts énormes pour stabiliser la situation à l'est du Congo. Et nous, comme secteur privé, on est en train d'en tirer le bénéfice aujourd'hui. Je dois saisir cette opportunité pour dire aussi que notre ministère des Mines a fait un travail remarquable. Et nous a non seulement accompagné pour trouver des initiatives qui puissent nous permettre de trouver des solutions durables, mais chaque fois qu'il y a une opportunité d'un îlot de stabilité, notre gouvernement n'a pas raté une opportunité d'appeler ce que nous appelons les comités de validation des sites miniers pour travailler, quoi. La preuve est que, je peux vous donner une situation générale du pays. Au Katanga, nous travaillons bien depuis plusieurs années, presque 4 ans. Au Maniema, depuis 2 ans, la situation s'est sensiblement améliorée. Au Nord Kivu, depuis qu'il n'y a plus les groupes armés, la situation évolue aussi sensiblement bien, surtout dans le territoire de Masisi. Au site Kivu, c'est la même chose. Il y a une évolution, mais qui est, positif, et qu'on essaie un peu d'améliorer de manière régulière avec les partenaires que nous avons, notamment notre gouvernement et la société civile nationale.
Merci Maboli Ayenga, vous êtes coordonnateur du programme d'appui au secteur des mines promis à sigle. C'est un soutien qui dépend du ministère des Mines et du gouvernement central. Quelle analyse vous faites de la déclaration des experts sur les lois relatives à la traçabilité des minerais dans l'Est de la RDC?
Merci monsieur le journaliste. Je représente ici le gouvernement de la République démocratique du Congo, étant donné que je suis au niveau du ministère des Mines. Et donc, ce qui importe pour nous, c'est le côté gouvernemental. Nous nous sommes impliqués depuis le début dans le problème de minerais de conflit. Et nous avons, comme l'a dit M. Cagnoni, pris des initiatives depuis bien longtemps, depuis le début. Évidemment, la situation qui a engendré
Des initiatives qui n'ont pas eu des changements significatifs sur le terrain, comme on l'a dit, les dit les experts.
Non, je crois que lui-même, si vous l'avez bien écouté, il a dit qu'il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites et qui ont produit des effets. Pas à l'échelle, disons, grandeur nature, mais il y a des effets qui sont là. Il ne faut pas oublier qu'ici, nous sommes dans un concert international et il faut tenir compte des aspirations ou de la volonté du client. Celui qui reçoit le produit demande à ce qu'il soit beaucoup plus standardisé, beaucoup plus propre. Et pour là, ça nous demande des efforts. Nous avions mis en place des efforts. Le ministère des Mines a toujours accompagné, a toujours prôné le dialogue avec la société civile, avec l'industrie. Nous avons été sur toutes les places, sur instruction du ministre des Mines, nous avons été sur toutes les places au niveau de Washington, au niveau de New York, partout pour défendre la cause. Donc dans ce domaine de Dodd-Frank, nous avions commencé bien avant, nous avons donné la position du gouvernement congolais, nous avons beaucoup discuté avec les autorités de régulation sur les dangers de mettre une loi en place, mais comme il l'a dit, c'est une loi américaine, c'est pas une loi congolaise. Et pour nous, la RDC, ce qui compte, c'est la déclaration de Lusaka, celle que le président Kabila avait signée, sur laquelle nous sommes en train de mettre en place la mise en œuvre de la certification régionale qui va, à notre avis, pouvoir juguler ou réduire sensiblement le problème de l'exploitation illégale de ressources naturelles.
Alors, lorsque vous lisez cette lettre, ces experts disent qu'il n'y a jamais eu de concertation au préalable entre les gouvernements congolais, la société civile, ainsi que les personnes qui ont élaboré la loi Dodd-Frank.
En partie, ils ont raison. Encore une fois, c'est une loi américaine. Ce n'est pas une loi congolaise. Donc, ils ne sont pas tenus de venir nous consulter. Mais ils ont organisé ce qu'on appelle des séances publiques. Et M. Cagnoni...
Donc, ils décident de suivre la RDC sans la RDC?
Non. Écoutez, la loi... Mais que voulez-vous? C'est une loi américaine qui s'adresse aux consommateurs américains qui veulent acheter des produits chez nous. Faites attention. Voici ce que nous allons demander si vous achetez des produits chez nous. Et donc, nous sommes partis, notamment avec justement M. Cagnoni, le ministre des Mines, nous sommes partis à la SEC. Nous avons exposé notre point de vue. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Comment nous voyons la situation? Mais encore une fois, c'est une loi américaine. Et comme je vous dis, nous avons une portée limitée pour pouvoir changer la donne.
Alors, dans cette lettre, on remet en cause la section 1502 de la loi Dodd-Frank en disant que cette loi n'a pas apporté des changements significatifs sur le terrain. Cela veut dire que les personnes qui ont initié cette loi n'ont pas fait un vrai diagnostic des réalités, des terrains, des causes qui sont à la base des conflits dans l'Est de la RDC.
C'était notre avis aussi, à un moment où nous avons été au Congrès pour parler avec ceux qui prenaient cette loi, qu'il fallait faire vraiment attention pour pouvoir ne pas avoir des causes, disons, de retour de manivelle où nous aurons tout un système qui sera bloqué. Et ça a été le cas, le système a été bloqué. Et nous avons dû donc nous conformer à essayer de mettre en place des systèmes pilotes, ce que nous avions déjà fait bien avant que la loi ait été prise. Nous avions déjà mis en place des systèmes pilotes pour réguler, contrôler l'exploitation des ressources naturelles. Donc cette loi est venue, s'il vous plaît, pas nous déstabiliser, mais porter pas un coup d'arrêt, mais disons déstabiliser un peu la marche que nous avions prise dans le domaine de mettre en place des circuits mieux contrôlés de nos produits qui partaient en exportation.
Les minerais aident à perpétuer les conflits, mais ils n'en sont pas la cause. Comment vous analysez cette affirmation contenue dans cette lettre ouverte?
Lorsque vous regardez le problème de l'exploitation des ressources naturelles, elles ne sont pas limitées, et ça nous le disons depuis toujours, aux seuls minerais de conflit. Il y a d'autres minerais qui peuvent aussi être aussi importants, mais qui ne sont pas pris en compte. Et ensuite, il y a d'autres, ressources naturelles telles que le bois, l'huile de palme, comme ils l'ont dit, et ça, nous sommes tout à fait d'accord. Bien sûr, l'eau aussi pourrait devenir des problèmes. Donc, les ressources naturelles sont abondantes en RDC. Il faut bien les gérer, sinon il y aurait des problèmes beaucoup plus tard.
Avons-nous en RDC une bourse de commerce des minerais? Y a-t-il un endroit où les vendeurs peuvent se rendre pour aller négocier la vente de leurs minerais?
Non, pas encore, mais ce que nous avons au niveau du ministère des Mines imaginé, où nous avons mis en exergue, c'était ce qu'on appelle les centres de négoce. Les centres de négoce sont en fait une formalisation de là où vous aviez des activités qui étaient au niveau pas artisanal, mais au niveau, comme qui dirait, des marchés, des carrefours s'il vous plaît, entre des carrefours routiers souvent, où il y avait toutes sortes d'activités où les gens se réunissaient. Et nous avons essayé de mettre des centres de négoce, c'est-à-dire mettre l'administration en place, une forme de guichet unique, pour que celui qui vient de mine puisse vendre à un négociant qui est là et qui irait ensuite vendre au niveau des exportateurs. Donc au niveau de la bourse comme telle, nous n'avons pas encore. Pour mettre une bourse en place, il faut avoir plusieurs industries, et pour le moment, elles ne sont pas encore de taille, si vous voulez, pour pouvoir créer un marché dans ce domaine.
Merci Willy Kalinga, je rappelle que vous êtes analyste et directeur général des Géopolis Magazine, c'est un magazine spécialisé dans les ressources naturelles. Comment vous analysez la déclaration de ces 70 experts nationaux et internationaux?
Merci de m'avoir associé à ce débat. J'ai bien lu cette déclaration. Elle est quand même sur 6 pages, c'est beaucoup de choses. Pour moi, si j'analyse très bien, je crois quand même qu'ils auraient pu s'épargner toute cette littérature et aller tout droit au but. Parce que si c'est la loi d'Haute-France qui est l'objectif de cette déclaration...
La question, plutôt la section
15.02 qui a créé un embargo de fait sur le minerai congolais. Alors pourquoi avoir autant mis beaucoup d'éléments? Parce qu'il y a énormément d'éléments ici, notamment la question que vous venez de soulever tout à l'heure, portant sur les raisons des conflits. Et il y a énormément de mélange. Je crois quand même qu'ils auraient pu s'épargner toutes ces choses. Parce que là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'analyse elle-même, elle est un peu en contradiction avec l'ensemble des initiatives qui sont sur le terrain. Qu'est-ce qui est privilégié? J'ai l'impression que les signataires... Évidemment, la loi d'Haute-Franc crée un embargo parce que le Congo n'était pas prêt, les dispositifs industriels du Congo étaient artisanaux au moment où la loi Dodd-Frank était votée aux États-Unis. Ça veut dire qu'après le moment, les Américains décident que les minerais qui vont arriver chez eux doivent passer par une traçabilité à l'origine industrielle, alors que nous sommes dans une production totalement artisanale. C'est tout à fait normal que notre industrie était condamnée. Je peux comprendre que 2 ans après, une grande partie de ces flux financiers a échappé au Congo parce que les importateurs ou les gens qui viennent pour prendre les minerais ici, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire entrer dans leur pays par le fait de la loi Dodd-Frank, ils vont ailleurs, simplement. Le fait qu'il y a beaucoup d'autres clients qui ont quitté l'Est...
Donc ça fait fuir les
clients.
Les clients, voilà.
Et depuis 2 ans, à l'époque, quand ça a été voté, ça a été dit. Le Congo, malheureusement, n'était pas suffisamment prêt pour faire face à une telle décision. Il fallait déjà continuer le lobbying et ne pas s'arrêter simplement à voir s'appliquer cette loi. Malheureusement, elle a été appliquée. Alors aujourd'hui, quand on écrit cette lettre, quand on crie au secours, parce que je pense que c'est un peu tard. C'est un peu tard parce qu'on ne peut pas reculer sur la traçabilité et les initiatives qui sont mises en place. On ne peut pas aujourd'hui minimiser les causes profondes des conflits qui sont à l'Est. Et moi, je pense que ce que je reproche aux signataires, et j'ai le droit de le dire, je me trompe peut-être, en minimisant l'accès aux ressources naturelles comme la cause principale de conflits à l'Est, les signataires posent un postulat qui va en contradiction avec toutes les stratégies qui sont mises en place jusqu'à aujourd'hui. Les Nations Unies, l'Union Européenne, la CIRGL, l'ensemble, la SADC, l'ensemble des forces politiques et sociales qui se battent pour la paix dans notre pays, partent du postulat que si nous sommes en guerre à l'est du pays, c'est parce qu'il y a des minerais.
C'est en fait des opinions répandues.
C'est ça le postulat. Uh-huh. Alors en disant que non, les minerais ne sont pas du tout la cause principale du conflit à l'est, alors les signataires posent un postulat qui est complètement en contradiction autour des stratégies. Ça veut dire en réalité que même la déclaration de Lusaka dont M. Mwambola a parlé tout à l'heure, celle de 2010, où 11 chefs d'État ont signé ensemble un document et ils se sont engagés de lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles comme étant source de conflit, dont cette déclaration-là est sans objet à la lecture de ces documents. C'est comme ça que j'ai dit qu'il y a comme un grand mélange de genres dans cette déclaration. On aurait pu s'arrêter simplement à dire que la loi Dodd-Frank nous a privés d'un grand flux financier et que le gouvernement devait nous défendre suffisamment. Mais en disant que sur place, rien n'a été fait, Moi, je pense que les amis n'ont pas beaucoup approfondi cette question.
Alors, cette lettre ne peut-elle pas être considérée comme un moyen pour les opérateurs économiques et de pouvoir contourner tous ces mécanismes de contrôle? Parce qu'il faut reconnaître aussi que ces mécanismes n'ont pas arrangé les opérateurs économiques, étant donné que ça n'a pas favorisé l'activité économique. Est-ce que ce n'est pas une façon de contourner ces stratégies?
Écoutez, moi j'ai une opinion, je peux peut-être me tromper, mais je préfère la donner. Et en passant, je salue John Cagnoni, qui est un ami, en disant que l'exploitation artisanale ne peut jamais développer un État. Je parle de l'idée que, tout en, parce que j'ai vu dans la lettre qu'il y a une grande plaidoirie à l'endroit des créseurs, ceux qui n'ont pas de boulot, ils vivaient, on a même parlé de 8 millions de personnes qui vivent de l'exploitation artisanale, c'est vrai. Mais regardez, c'est parce qu'il y a l'exploitation artisanale qu'il y a militarisation de l'économie. C'est parce qu'on peut faire entrer des créseurs dans des mines et qu'on peut les protéger par des militaires que l'insécurité est récurrente. Et si on peut industrialiser l'exploitation, mettre des usines comme dans d'autres provinces, je pense que nous allons réduire sensiblement les causes des conflits. Pour moi, je crois que l'Est du pays souffre en grande partie du fait que l'artisanat est le seul moyen de production des minéraux qui deviennent des minéraux de conflit par le fait qu'ils sont des créseurs qui le font et non des professionnels qui sont engagés par des grands groupes.
Nous avons eu une réaction de Jean-Luc Moukoutou depuis Lubumbashi qui dit: comment se fait-il que les minéraux dits décents sont toujours achetés par les pays qui interdisent leur vente?
Évidemment, c'est cela aussi la difficulté. Nous avions laissé se développer une économie parallèle où les minéraux étaient produits par des économies militarisées, c'est-à-dire des militaires, des rebelles qui prenaient en otage des sites de production et qui, la nuit ou le jour, des avions venaient. Nous avons déjà dit tout ça depuis longtemps sur ce micro. Des gens prenaient ces minéraux et ils allaient dans les pays voisins où ils étaient attendus par les négociants, entre guillemets, et qui prenaient ces minéraux. L'économie parallèle existe, l'économie légale existe, l'économie criminelle existe. Et ces pays, effectivement, d'une manière ou d'une autre, il y a une limite. À partir du moment où il y a eu des rapports des Nations Unies, il y a eu des ONG, il y a eu des condamnations, il y a eu une conscience internationale qui s'est développée autour de cette question du minéraux des sangs, la prise de conscience a poussé les décideurs à mettre fin à cette pratique. Et nous sommes dans cette phase-là où nous mettons en place des stratégies pour mettre fin à la pratique de cette économie parallèle, économie criminelle.
Merci John Cagnoni. Nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Bukavu au sud de Kivu.
Robert Mohamed de Bukavu au sud de Kivu. Cette déclaration des experts congolais internationaux est fondée, mais je pense que lutter efficacement contre l'insécurité de toute nature dans le milieu d'extraction ou d'exploitation minière de la RDC veut dire lutter efficacement contre les minéraux de sang en RDC.
Voilà, vous avez suivi Willy Kalinga aussi qui dit presque la même chose. Il vous reproche le fait d'avoir minimisé l'accès aux ressources naturelles comme cause des conflits en RDC.
Je me permets d'abord de répondre à Kalinga et puis je vais peut-être répondre à la question de l'auditeur de Bukavu.
Je vous en prie.
Alors, par rapport à Kalinga, je suis tout à fait d'accord avec lui que la solution sur le long terme est une exploitation industrielle. Nous la soutenons. Nous avons toujours travaillé étroitement avec notre gouvernement pour trouver des voies et moyens, comment est-ce qu'on peut quitter l'artisanat vers une exploitation qui soit industrielle. C'est d'ailleurs même la recommandation que le chef de l'État nous a toujours faite chaque fois qu'il a eu l'opportunité de nous recevoir. Mais nous sommes confrontés à des défis majeurs. Le premier défi, qui est commun pratiquement à toute l'industrie minière, c'est l'absence des infrastructures énergétiques et routières. Ça, c'est des problèmes qui sont réels. Je vous donne un exemple. Nous avons une mine qui était à Walikame, qui pose problème aujourd'hui, qui est encore considérée comme une mine rouge. Pour y arriver, il faut faire de temps en temps plus de 50 km. C'était la mine qui produisait pratiquement presque la moitié de l'étain qui venait de la RDC. Ça, c'est une des observations. De deux, il faut savoir que beaucoup de sites miniers ont été des sites miniers qui ont été découverts en dehors des sites classiques que nous avions, comme Sakima, qui était implanté au Manima, qui était implanté au sud Kivu, qui était même implanté au nord Kivu. Nous sommes en train de voir petit à petit comment est-ce qu'on va y arriver. Mais je dois vous avouer que le potentiel, par exemple, qu'il y a dans la province du Maniema est énorme. Mais on n'a pas d'énergie. Je vous donne un exemple. Juste pour dégager un conteneur de Kindu jusqu'à Kigoma, il nous arrive que nous prenions pratiquement un mois. Alors que nous sommes obligés de répondre aux mêmes règles du marché que n'importe quel producteur, qu'il soit en Australie, qu'il soit en Indonésie ou qu'il soit en Malaisie. Donc ça, c'est une clarification. Deuxième, est-ce que cette lettre va en contradiction avec les autres initiatives? Non. Nous soutenons toutes les autres initiatives. Nous avons accompagné le chef de l'État à Lusaka quand il a signé l'accord de la CIRGL. Nous avons travaillé étroitement et nous continuons à travailler avec M. Mabolia, qui a à un moment même chapeauté les volets minéraux des sangs au niveau de la CIRGL. Nous soutenons l'OCDE, où nous allons pratiquement 2 fois chaque année. Je vous informe d'ailleurs que la prochaine réunion de l'OCDE sera dans notre pays et ça sera à Kinshasa. C'est pour vous montrer que nous soutenons les initiatives qui nous donnent une opportunité d'aller vers quelque chose qui soit durable et qui puisse nous permettre de bien travailler. Donc ça, c'est la deuxième observation.
Alors, par rapport
les groupes armés, notre position...
Allô? Oui, par rapport aux causes des conflits dans l'Est.
Dans notre lettre, nous avons été très clairs. Nous vous avons parlé de 8% du fait que ça soit lié au secteur minier. Nous vous avons dit que les problèmes que nous avons à l'est du Congo sont au-delà du secteur minier. Nous avons des problèmes de terre, nous avons des problèmes de lutte politique, nous avons des problèmes d'influence politique, nous avons des problèmes de démographie. Voilà des vrais problèmes auxquels il faut trouver une solution durable. Les mines, ce n'est pas ça le problème qu'il y a. Les mines peuvent être l'une des conséquences de tous ces problèmes-là pour voir un peu comment on peut être dans une meilleure position et qui peut probablement être utilisé par l'un ou l'autre groupe armé. Donc, de ce côté-là, c'est très clair.
Alors, là, vous êtes en train de contredire l'opinion répandue selon laquelle c'est la cause des conflits au Congo, c'est l'exploitation et les trafics illicites des minéraux.
Vous comprenez bien que ça a été quelque chose qui se vendait très bien. Je vais revenir juste à une petite histoire. Nous sommes avec M. Mabolia à Washington, au Congrès des États-Unis d'Amérique. Nous avons eu l'occasion de visiter le Sénat. On a visité même les départements d'État. Nous arrivons à Washington. Nous sommes en train de travailler avec les gens qui ont écrit la section 15.0D. Nous leur posons la question. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Nous avons été à Goma et on nous a dit que tous les conflits étaient liés au minerai. Est-ce que vous avez vu le ministre des Mines? Non. Est-ce que vous avez vu monsieur le gouverneur? Non. Est-ce que vous avez vu les opérateurs miniers? Non. Est-ce que vous avez vu la société civile? Non. On leur a dit, cette démarche, elle est inopportune et elle va poser des problèmes. Mais ça se vendait très bien. Mais j'aimerais quand même revenir sur quelque chose qui est très important. Bien que notre production soit essentiellement artisanale, je peux vous confirmer que nous sommes le premier producteur d'étain au niveau de l'Afrique. Ce n'est quand même pas négligeable. Une exploitation artisanale.
Merci.
Alors, rassurez-vous que le jour où on va passer à l'industriel, on va y aller. Les coltans, nous avons les plus grosses réserves du monde dans notre pays. Ce n'est quand même pas négligeable. Comment est-ce qu'on peut trouver des moyens qui puissent nous permettre de faire une exploitation industrielle qui va avoir un impact sur nos populations, sur l'État, et qui va permettre à ceux qui ont investi aussi qu'ils puissent avoir les retours de leur investissement?
Merci, John Kalimou.
Ce sont les questions qui sont essentielles.
Merci, Monsieur Mabolia Yenga. Nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Kindu au Maniema.
Tatamina de Kindu au Maniema. Les experts congolais ont fait une bonne chose de publier la transaction des minéraux en République démocratique du Congo, mais ils seront étouffés par la faiblesse des autorités congolaises face aux exploitants étrangers.
Nous nous excusons pour la qualité sonore de cet élément. Monsieur Mabolia.
Ils seront étouffés, je crois, par... je n'ai pas très bien saisi.
Étouffés par les pressions des puissances extérieures.
Bon, tout à fait. Hein. Le problème, comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de produire quelque chose. Le client, selon l'adage, le client est roi, celui qui reçoit le matériel, a ses exigences et il faut se conformer, sinon vous n'avez pas un marché. Donc il y a beaucoup de difficultés et le gouvernement accompagne donc l'entreprise privée à pouvoir aller au-delà de ses actions. Donc vous voyez qu'il y a des financements via les projets promis ou d'autres projets qui essayent d'alléger un peu disons tous les frais que doivent encourir l'entreprise privée dans la régulation en se conformant à toutes ces mesures qui sont prises.
En fait, l'auditeur, lui, pense que c'est plutôt l'État congolais qui a la vocation de lutter contre ces minerais de sang. Et il se pose la question de savoir si nous serons en mesure de faire face à toutes les pressions des puissances étrangères.
Bon, on fait avec ce que l'on a. Nous sommes assez conscients de ce qu'il faut faire. Bon, les moyens ne sont toujours pas là. Par exemple, comme l'a dit Willy tantôt, à l'époque, nous vendions à peu près, avant la loi Dodd-Frank, nous arrivons à vendre jusqu'à à 19 000 tonnes de cassiterite qui rapportait à peu près, je crois, 200, 220 millions. Mais du jour au lendemain, avec la Dodd-Frank, on est passé presque à 8 000 tonnes avec à peu près 15 à 20 millions de dollars. Donc ça fait un manque à gagner pour le gouvernement et ça donc c'est une diminution sensible des moyens. Et donc il faut faire avec ce que nous avons et on essaie de travailler avec parcimonie, avec les moyens qui nous sont disponibles. Encore une fois, l'action doit être mise non à contenir l'exploitation artisanale, mais la promotion de l'exploitation industrielle est extrêmement importante avec la stratégie du ministère de Mines de créer ce qu'on appelle une ceinture aurifère à l'est de la RDC. Là où vous avez vu, où vous avez des industries minières qui se sont implantées comme Kibali Gold, ça fait un îlot de paix, un îlot de prospérité qui est en train de jaillir sur toute la contrée. Et donc maintenant, l'action du ministère, entre autres, c'est par exemple au niveau de là où John Canyon y a parlé, de BCA, où il y a une société américaine, Alpha Mine, qui veut installer donc une usine. Donc maintenant, nous appelons toutes les autorités à accompagner.
BCA est contrôlé par le gouvernement congolais ou c'est toujours les groupes armés qui continuent à faire la loi là-bas?
BCA est contrôlé par le gouvernement congolais. Vous pouvez aller à BCA, les gens vont à BCA. C'est sous contrôle. Et comme je vous dis, c'est une concession qui a été pas donnée, mais qui est de Alpha Mine, qui veut implanter une grande usine à caractère industriel pour justement l'exploitation de la cassiterite. Et donc cette usine, si elle arrivait à voir le jour, serait d'un impact réel pour toute la région.
Monsieur Mabolia, quel bilan vous pouvez dresser des centres de négoce qui avaient été mis en place?
Nous n'avons pas encore abandonné l'idée des centres de négoce. Je crois que nous sommes en train de travailler d'ailleurs actuellement pour créer un centre de négoce au niveau de Isangi, toujours dans la région de Walikale. Et donc les centres de négoce n'ont pas encore réellement démarré. Il y a eu des problèmes techniques qui sont en train d'être surmontés, mais il y a des centres de négoce qui sont déjà de facto dans d'autres régions. Par exemple, au Katanga, vous avez des endroits où il y a déjà des centres de négoce qui fonctionnent.
La lutte contre le minerai de sang n'a pas encore mené des changements significatifs sur le terrain, c'est selon la lettre de ces experts. Et au gouvernement, vous avez déjà évalué l'impact de ces mécanismes de traçabilité sur les conflits dans l'est de la RDC?
Nous le faisons constamment et encore, comme je crois c'est John qui vient de le dire, d'ici novembre, il y aura encore une conférence de OCDE, CIRGL, justement sur la problématique des minerais de conflit.
Donc, vous le faites régulièrement?
Mais nous le faisons soit en interne, au niveau du ministère. Il y a plusieurs réunions qui sont faites avec les amis de l'Est. Hein, ils peuvent vous-même témoigner. Mais sur le plan international aussi, il y a toujours des experts du ministère des Mines qui assistent aux différentes réunions qui se passent à travers le monde sur le sujet.
Et l'inspection de toutes ces mines, est-ce qu'elle s'est faite de façon régulière par le gouvernement congolais? Parce que c'est l'un des griefs formulés par ces experts au gouvernement congolais.
C'est
dans cette lettre.
Il y a plusieurs aspects. C'est un problème de moyens aussi. Vous savez, lorsque vous parlez de l'Est, c'est à la taille de la France, je crois pratiquement, ou presque une grande taille. Et là, vous avez dit, il n'y a pas de compagnie minière, à part une ou deux compagnies minières. Donc, il y a déjà un problème au niveau, en termes d'industrie présente. Et ensuite, la distance entre deux sites peut être quelquefois assez difficile à le faire. Et donc, ça prend souvent des moyens tels que des hélicoptères, telles que des voitures et tout ça, et le ministère et le gouvernement n'a pas tout le temps cette possibilité. Elle doit recourir donc à la MONUSCO et aux autres organismes qui sont présents. Donc ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle les équipes conjointes. Les équipes conjointes, c'est le ministère des Mines, c'est les différents services du ministère des Mines, la société civile et la FEC qui sont tous présentes et qui se déplacent de mine en mine pour essayer donc de voir s'il n'y a pas de groupes armés, s'il n'y a pas des enfants. Cette activité, elle est comment dirais-je, lourde à faire et elle est difficile à suivre parce que ça demande beaucoup de moyens que nous n'avons pas. Mais nous sommes en train maintenant de travailler à mettre en place par ce que nous appelons les inspections au niveau un corps d'inspecteurs du ministère des Mines qui devrait en fait prendre la relève. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui est en train de faire sont faites par proxy, parce que c'est le rôle du gouvernement de le faire. Merci. Mais nous travaillons actuellement avec les partenaires et au finish, c'est le gouvernement qui prendra dès que les inspecteurs seront formés.
Oui, Galingaï, nous allons prendre pour vous cette question qui vient des Manono au Katanga.
Moi, c'est le prof Mouvumbu Kassabanzos depuis Manono au Katanga. La protection des minéraux dits du sang de l'Est de la RDC revient à la RDC elle-même par toute sa responsabilité et non à d'autres nations, de peur que les termes minéraux du sang ne continuent à être une couverture de semeurs de troubles et de guerres, non seulement à l'Est, mais aussi dans toute la RDC et au Katanga. Merci.
C'est passé une question, hein. Je crois qu'il a formulé une opinion, mais un petit commentaire. Évidemment, il revient à notre pays de faire une production qui soit exempte des soupçons. Il faudrait que nous puissions mettre en place des mécanismes de production de nos minéraux de manière à ce que les clients, comme l'a dit ma poule tout à l'heure, que les clients soient satisfaits. Donc, c'est pas les autres qui vont faire la cuisine chez nous et faire la toilette. C'est nous qui devons mettre en place. Et de ce côté-là, il a raison parce que le gouvernement a beaucoup retardé certains nombres de réglementations. Aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre 2 ans après. On parle de la révision du code minier qui n'y vient toujours pas. Il s'agit effectivement d'accélérer les processus de traçabilité, mais par la loi d'abord. La loi elle-même a été remise en cause, on a commencé à faire la révision, elle n'est pas encore finie, elle n'est pas encore promulguée, je ne sais pas pourquoi. Les secteurs sont en train de se développer, de nouveaux acteurs sont en train d'arriver.
Là, vous faites allusion au code minier.
Au code minier, parce que c'est lui le cadre juridique, le cadre légal. Or, il y a eu déjà plusieurs concertations et nous nous demandons pourquoi jusqu'à ce jour ce code n'est pas encore promulgué. Parce que tout ceci participe quand même d'une certaine mesure à ce qui a été reproché par les experts. Et là, je les appuie quand ils parlent de la lenteur dans la certification. Les délais sont tellement longs qu'on ne sait même pas exactement quand est-ce qu'on est certifié quand on ne l'est pas. Je crois qu'il y a quand même du côté du gouvernement une certaine lenteur qui peut être préjudiciable et qui peut perpétuer l'image que nous couvrons, en fait, l'exploitation de ces minéraux de sang.
Monsieur Kalingaï, que faut-il pour lutter efficacement contre les minéraux de sang dans l'est de la RDC? Vous avez parlé de l'exploitation, la RDC fasse un effort pour avoir une exploitation industrielle.
Absolument, il n'y a pas... Je crois que même John, tout à l'heure, Canyon qui a parlé, ne m'a pas contredit. Il faut une exploitation industrielle, mais qui doit être assise sur quoi? Assise sur un État présent, un État fort. L'État, ça signifie les infrastructures de base, c'est-à-dire les routes, l'énergie électrique, la sécurité. Parce que les industries ne viennent pas comme ça pour inventer l'État. Les industries viennent profiter d'un État qui est présent. Ce qui est vrai, c'est que l'autorité de l'État, parce qu'il n'est pas suffisamment établi dans certains coins, et le manque d'autorité permet la multiplication de ces groupes armés qui se font des micro-états dans lesquels ils font régner la loi de la jungle. Je pense que c'est cela qu'il faut faire. Il faut absolument que des grands groupes viennent s'installer et même ceux qui sont sur place, ils peuvent se coaliser pour devenir des vraies industries. L'industrie artisanale ne peut en réalité pas nous profiter à tous.
Les experts, les 70 experts nationaux et internationaux ont formulé des recommandations. Ils demandent que les anciens acteurs du conflit doivent être incités à se joindre au programme, ce qui permettrait d'éviter la subversion ou l'infiltration du système. Comment vous analysez cette recommandation?
Déjà, au départ, comme je ne suis pas d'accord avec une sous-analyse exacte de cause du conflit, évidemment, je ne nie pas qu'il y ait d'autres questions, notamment celles qu'ils ont même énumérées. Je peux vous citer 2 ou 3 qu'ils ont énumérées comme source de conflit. Lutte de pouvoir et d'influence, tensions relatives à l'accès à la terre et à la citoyenneté, l'identité des différents groupes, ce sont des causes qu'ils ont données comme étant principales et que la cause du minéraux était secondaire. Mais je pense quand même que dans la formulation des recommandations, il y a une petite faiblesse. si c'est la loi Dodd-Frank qui était l'objet principal, vous allez voir que dans les recommandations des experts, nulle part il n'est fait allusion à la loi Dodd-Frank. Ils ne reviennent pas à cette loi-là. Les recommandations portent plutôt sur le gouvernement congolais qui n'a aucun pouvoir sur cette loi en question. Donc, eux aussi ils comprennent que la loi Dodd-Frank, elle est inaccessible à notre influence et que le Congo, lui, doit s'organiser pour être à la hauteur des exigences de cette loi qui est déjà votée. Voilà un peu le problème, c'est que c'est nous qui devons faire un effort pour rejoindre cette loi plutôt que de la changer, et c'est trop tard.
Nous attendons vers la fin de cette émission, vous pouvez conclure.
Moi je suis heureux parce que ceci nous permet quand même d'avoir trouvé une masse critique des intellectuels qui ont pu mettre en place cette synergie. Je suis content que ça ait pu être dit en public et ça nous a permis de revenir sur cette question de traçabilité. Mais je pense quand même que le certificat CIRGL est un des moyens efficaces pour pouvoir régler la question de minerais de sang, parce que 11 chefs d'État, des gouvernements responsables et des industriels cohérents et responsables peuvent régler cette question-là. Il suffit de s'organiser dans un État puissant pour que cette question-là soit minimisée.
John Kanyoni, que faut-il pour lutter efficacement contre les minerais de sang dans l'Est de la RDC? Et parmi les recommandations que vous avez formulées, vous demandez qu'il y ait amélioration des concertations avec le gouvernement et les communautés locales.
Tout à fait, tout à fait. L'objectif que nous avions poursuivi, c'est nous assurer que cette initiative est prise en compte d'abord par les Congolais. Ce n'est pas normal que les gens qui sont à Washington et à Londres décident sur nos sorts alors que nous sommes nous-mêmes déterminés à aller de l'avant. Nous sommes déterminés à voir comment est-ce que les minerais peuvent contribuer non seulement à la paix et à la sécurité, nous qui vivons à l'est du Congo, on en a besoin, mais qui puissent permettre aussi à la réduction de la pauvreté et permettre à notre gouvernement d'avoir des recettes. Et en tant que membre de la Fédération des entreprises du Congo, nous y travaillons étroitement en collaboration avec le gouvernement, avec la société civile, et nous sommes très 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 convaincus que si l'initiative est prise en charge par les Congolais, on peut atteindre des résultats positifs pour le futur.
Vous avez suivi M. Willy Kalengai qui dit qu'il constate que dans les recommandations que vous avez formulées, nulle part vous n'évoquez la loi Dodd-Frank.
Bon, je vais recommander à Willy Kalengai de lire les recommandations que nous avions faites. S'il lit le point 3, on a fait allusion à Dodd-Frank. S'il lit le point 5, on a fait encore allusion à Dodd-Frank. C'est pour vous montrer que Dodd-Frank a été le problème. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est nous seulement qui avions signé cette lettre qu'il constatons? Non. Je vous dis que même au niveau des États-Unis, la Chambre du commerce, la semaine passée, a bien clarifié que Dodd-Frank n'était pas la solution.
Et comme conclusion?
Comme conclusion, nous nous battrons toujours pour des minerais qui puissent permettre à ce que nous ayons beaucoup plus de sécurité à l'Est, qui puissent permettre à ce que notre gouvernement puisse en profiter. Et j'insiste sur un fait, j'ai entendu Willy Kalengai de parler des investissements de l'étranger. Nous voulons aussi lutter et promouvoir une émergence d'une classe congolaise.
Merci.
Et je pense qu'on peut y arriver. L'entrepreneuriat à l'Est ici est conséquent et on pourra y arriver ensemble.
Merci Mabouli Ayenga, que faut-il pour lutter efficacement contre les minerais de sang dans l'Est de la RDC? Ça sera aussi votre conclusion.
La mise en œuvre du système de certification selon la déclaration de Lusaka est un premier pas dans lequel le ministère des Mines est engagé. Nous y mettons toute notre énergie, notre volonté pour y arriver.
Oui, il est dit que si les inspections sont régulières, cela peut permettre de lutter efficacement contre les minerais de sang et l'insécurité.
Tout à fait, si les inspections sont régulières, mais encore je vous ai dit, c'est un grand défi et nous y travaillons, ça demande beaucoup de moyens, mais il y a d'autres solutions qui sont aussi envisagées. Encore une fois, les centres de négoce et comme on a dit, une industrialisation beaucoup plus accrue, le passage de l'exploitation artisanale à une exploitation semi-mécanisée, il y a toutes sortes d'initiatives qui sont aussi dans le pipeline au niveau du ministère des Mines.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Mimi Kindou qui était à la technique. Merci à Kéline Kouté et Alain Irung qui m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe, devant ses micros, Guy Maté. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Kapi.